Ok.
Attends, attends.
Attendez, je prépare ma belle voix.
Attends, parce que moi, ma voix va être c'est. Je vais
C'est bon. Interclass, à Paris 19e, avec le collège Georges Rouault. Enregistré au centre Angèle Mercier. Production et rédaction en chef. Éric Valmire. Assisté de Fanny Léonore. Rousé. Réalisation Lilian Alloum. Prise de son Nicolas Mathias. Frédéric Kérou. Équipe de France Inter Claude Guibal. Hélène Philly. Jeanne Maillard. Martin Rinquet. Et l'institution pratique du journalisme et équipe collège Elena Pavel, Laurence Grammar, production musicale Jean-Baptiste Audibert et les élèves d'interclasse.
Yeah,
c'est excellent.
France Inter, Interclasse.
Ces lettres que tu as mis au monde, que tu as portées, que tu as allaitées, que tu as nourries, que tu as aimées, cet être humain qui était tout petit, que tu aimes de tout ton cœur, que j'aime le plus au monde, contre qui il faut que j'aille porter plainte. C'est très très dur pour une maman.
France Inter, Interclasse, Collège Georges Rouault à Paris.
Quand on dit 19e arrondissement de Paris, on pense au but de Chaumont, au canal de l'Ourcq ou à la Villette, le plus grand parc de la capitale. On a pourtant l'impression d'être dans un autre univers, au square de la Marseillaise, juste après le périphérique à la frontière de la Seine-Saint-Denis. Dans le parc, quelques tables de ping-pong où joue Monsieur Quache, habitant du quartier depuis 30 ans.
Et on fait des ping-pong, mais pas quand il y a du vent.
Juste à côté, deux enfants jouent avec un petit skateboard.
Tu sais faire des figures ?
Tu sais faire des figures ?
Les mamans discutent juste à côté. L'une d'elles, Madame Soua, s'entraîne sur un équipement sportif du parc. Ça fait plus de 10 ans qu'elle habite dans le quartier.
Il y a ma fille qui est en école alimentaire et les deux qui sont à la maternelle, mais c'est côte à côte. Et je sais qu'il y a le collège à côté, donc ça sera super après.
Les trois établissements dans un même pâté de maison et tous les élèves qui se retrouvent au square après les cours. Maroline et Verlaine sont en troisième au collège Georges Rouault. Elles aiment ce petit rectangle de verdure.
On peut voir les enfants sortir de la primaire et ouais, même le petit qu'on connaît, il nous fait « Salut, ça va ?»
Après des années à grandir dans ce microcosme, Maroline a l'impression de connaître tout le monde.
On voit toujours les mêmes personnes et ça veut dire qu'on est en communauté. Tout le monde se connaît. Même l'ami de ton ami connaît l'ami de ton ami. Et c'est ça qui est bien.
Maroline évoque aussi une présence permanente dans la rue qui peut aussi être envahissante, raconte Verlaine.
J'habite dans un immeuble et en bas j'ai une cour. Les gens se retrouvent tous en bas de ma cour.
C'est pour faire la fête, se retrouver, discuter ?
Non, se retrouver, discuter.
Est-ce que c'est un endroit où toi, tu vas personnellement ?
Pas du tout. En fait, ces personnes-là, je les côtoie pas. C'est pas des gens avec qui je traîne.
Ces rassemblements dans les cours intérieures, Maroline les évite.
Parfois, quand je sors dehors, juste devant, on voit plein de personnes autour et moi, parfois, je contourne. J'ai tellement peur, je me dis, je sais pas, j'ai trop peur.
Pendant le confinement, au mois de mai, le quartier du collège s'est embrasé pendant plusieurs nuits, des échauffourées dans les rues juste de l'autre côté du square, avec des cocktails Molotov, des feux d'artifice, des lacrymos, comme on peut l'entendre sur ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Alors pour s'évader, les deux jeunes filles font des virées hors de la Cité Blanche, dans les centres commerciaux par exemple, ou passent le temps dans les jardins d'immeubles avec les garçons.
Les garçons qui prennent les trucs rouges et qui les sortent de l'eau. Je sais pas comment ça s'appelle. On ouvre et il y a de l'eau qui sort pour les pompiers.
Ah, les bornes incendies.
Oui, et bah eux ils ouvrent et ils se mettent dans l'eau et tout. Et c'est trop marrant. Parfois je sors dans la rue, je vois ça, ça me fait rire et c'est trop bien.
Ça fait une grande fontaine.
Ouais, à parfois il y a des arcs-en-ciel aussi, c'est trop beau, ouais.
À la rentrée prochaine, les deux adolescentes vont quitter le collège Georges Rouault pour rentrer au lycée. et s'éloigner petit à petit de cet univers si familier.
Dis-leur, c'est comment ? Dis-leur que c'est la vérité parce qu'ils me prennent pour un tormentor.
Alors nous sommes au centre Angèle Mercier dans le 19e arrondissement de Paris et autour de la table, 6 élèves, 3 filles, Luna, Myriam, Oda et 3 garçons, Jawad, Reda et Emmanuel. Emmanuel, tous les 6, vous avez décidé de travailler sur un sujet que vous avez choisi.
Notre groupe a décidé d'enquêter sur un thème très touchant et difficile, la violence des jeunes envers les parents. Un phénomène qui touche toutes les classes sociales, mais malheureusement un phénomène tabou dans la société.
Karen a un garçon et une fille. À l'adolescence, les choses sont devenues très compliquées.
Un soir de fin d'été, on ne voulait pas qu'ils sortent très tard. Ils étaient tous les deux, ils m'ont bousculé contre... Je suis tombée contre un radiateur en fonte. Donc j'ai eu un traumatisme crânien... 9 agrafes dans le crâne, j'avais des hématomes sur tout le corps, j'avais un œil au beurre noir. Et donc j'ai eu, suite à ça, un arrêt de travail de plusieurs semaines.
En grandissant, la violence des enfants de Karen est devenue ingérable.
Il y a de l'incompréhension, il y a de la colère aussi. On se pose la question évidemment, comment on a pu en arriver là. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Je pense que c'est mon cerveau qui fait, qui fait écran. Pour que je continue à vivre, hein, tout simplement.
Un jour, les coups sont devenus si terribles que la seule solution a été de porter plainte. Gaëlle Sauté est avocate en Suisse. Elle a écrit un livre sur cette violence.
La violence, c'est jamais binaire. C'est pas qu'il y a un auteur et une victime, mais ça s'arrête là. C'est plus dans le système, en fait, des interactions entre les personnes.
Face à la crise, plusieurs types de solutions sont envisageables, explique l'avocate.
Il peut y avoir un éducateur qui observe le fonctionnement de la famille, un peu sur le modèle de l'émission Super Nanny. Et ça peut carrément aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale, voire au placement de l'enfant. Donc on sort l'enfant de son milieu familial parce que la situation elle est telle que les personnes ne peuvent plus cohabiter.
Caroline Marin est éducatrice en protection judiciaire de la jeunesse. Son travail, c'est entre autres d'aider à mettre des mots sur cette violence, pour réparer le lien parent-enfant.
Souvent, on entend des parents dire « mais notre enfant, c'est plus du tout la même personne ». Mais oui, mais parce que l'adolescence, c'est vraiment une période très difficile, parce que le corps change, parce que la façon de communiquer et de comprendre le monde change. L'adolescent, il a du mal à verbaliser ses émotions. Souvent, il se sent incompris, il a besoin qu'on l'entende, sans le culpabiliser. Et en fait, il a besoin aussi de savoir que l'adulte, il est fiable.
La violence des jeunes envers les parents est un phénomène tabou, mais bien réel.
Pour bien comprendre la dureté de ces situations, ce témoignage qui nous a beaucoup émus, celui de Sonia, une mère frappée par sa fille.
À partir du moment où j'ai dit, tu te rends compte, il est quand même 3h30 du matin, ta sœur et moi, on s'inquiète, on est mort d'inquiétude. Bah, t'aurais pu appeler, répondre au téléphone. Oui, j'ai vu tous les messages et tout, mais je vais pas répondre. Voilà. Et puis là, c'est parti. Elle a tout cassé, en fait. Elle a explosé la télé dans le salon. Elle a explosé l'ordi. Elle a explosé la vaisselle dans la cuisine en hurlant, en me disant « je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ce que je dois faire, ni quand je rentre, ni quand je sors ». Et elle m'a tiré après par les cheveux parce que j'ai essayé quand même de la calmer parce qu'elle cassait tout quand même. Donc j'ai essayé quand même de l'attraper, de la calmer, pour la calmer en lui disant « calme-toi ». Et là, elle m'a tiré par les cheveux, elle m'a tiré tellement fort les cheveux qu'elle m'a enlevé une touffe, une sacrée touffe de mes cheveux. Elle m'a griffé, elle m'a donné un coup de poing. Et quand il y a comme ça, il y a de la violence, je suis tétanisée par la violence, c'est quelque chose qui me tétanise. Je reste scotchée sur place, je ne peux plus bouger quand quelqu'un est violent. Donc, je me suis assise comme ça par terre et je l'ai laissé faire. Peut-être que j'aurais dû lui foutre une baffe, lui donner une gifle, mais elle s'est acharnée sur moi. Voilà, c'était la première fois. C'est quelque chose qui est pas normal, quoi. C'est l'être que tu as mis au monde, que tu as porté, que tu as allaité, que tu as nourri, que tu as aimé. Cet être humain qui était tout petit, que t'aimes de tout ton cœur, que j'aime le plus au monde, contre qui il faut que j'aille porter plainte. C'est très, très dur pour une maman. Je me suis jamais sentie aussi seule que pendant cette période, parce qu'on peut pas en parler aux autres, on peut pas leur dire « mon enfant me frappe », c'est pas normal. On peut dire, par exemple, « mon mari me frappe », mais on ne peut pas dire que son enfant… on peut pas, c'est pas possible pour une maman. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais effacer, jamais. Et de dire qu'on a peur de son enfant, c'est très, très dur. Mais j'ai vraiment... Et j'aurai toujours peur de ma fille.
Qu'est-ce que ça vous a laissé comme, comme sentiment, tout ça ?
Je m'y attendais pas.
Moi aussi.
Tu imaginais de telles violences possibles ?
Ben non, c'est qu'une petite fille.
C'est quand la maman elle a pleuré devant nous. J'étais gênée et...
Triste.
Triste aussi. Voilà.
On a eu de la peine pour elle.
Et après, c'est parti en couille. On s'est battu avec eux et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue à se battre avec eux.
On se battait avec des mains. Après, ça s'est enflammé. On a pris des estacs.
Je me suis fait blinder par les gars de là-bas.
Juste pour voir c'est qui le plus fort, c'est tout.
Ah, ça peut pas se lire comme ça, je crois.
Ils vont dire, si nous on a arrêté, on a peur. C'est ça, après, nous, on n'a pas envie d'arrêter.
Parce qu'après, si tu vas pas, tu seras, je sais pas, tu seras insulté dans ton quartier. Tu seras pas trop respecté et tout ça.
En ce moment, dans notre quartier, il y avait eu beaucoup de violences.
C'est des violences de quartier.
C'est des règlements de compte entre quartiers. Ils se réunissent et après, ils se frappent.
Mais c'est que les garçons.
C'est pas toujours des garçons, c'est un cliché, ça. Des filles peuvent se battre autant que des garçons.
Non, parce que nous, dans nos quartiers, c'est tout le temps les garçons, c'est pas les filles.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de clichés comme ça, la violence, c'est masculin?
Oui, il y en a beaucoup.
Oui, beaucoup. Il y a des gens qui disent les Arabes, c'est des voleurs. Les Noirs, c'est des singes. Les Congolais, ils mangent du singe. Beaucoup de clichés dans ce genre-là.
Tout ce que tu dis, là, c'est des choses que tu entends
tous les
au
jours.
Quotidien.
Tous les jours.
Vous, vous avez déjà participé à ces bagarres?
Non.
Non, mais on a assisté, enfin, on a vu.
Pas moi.
C'était vraiment violent. Mais après, des fois, ils taillent les pays aussi.
Ça fait mal, hein.
Entre rebeux aussi, bah, ils se taillent.
Ouais. Par exemple, ils vont comparer la Tunisie et le Maroc et l'Algérie. Bon, moi, je trouve qu'il y a... aucune différence.
Si, quand même.
Lesquelles, s'il vous plaît?
Franchement, la Tunisie, c'est le plus beau pays, hein, du Maghreb.
C'est ce que les Algériens vont dire, c'est ce que les Marocains vont dire. Ils vont tous défendre leur pays. Sérieusement, quelle soit la différence?
Après le Maroc, je vois pas, il y a quoi là-bas.
C'est comme si je disais, Haïti, c'est le plus beau pays, alors que je sais, en vrai, c'est faux.
Mais moi, je sais que c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il y a en Tunisie, à part les plages?
En Tunisie, il y a tout.
Mais alors, ça pose une autre question, Emmanuel. Est-ce qu'on est obligé de choisir, en fait?
On n'est pas obligé de choisir.
Est-ce qu'on est obligé de se classer, de se comparer aux autres?
Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Il n'y a aucune différence.
Qu'est-ce que ça crée finalement entre vous, toute cette compétition?
Des disputes.
Des guerres.
Des bagarres.
Des trucs inutiles, quoi. Moi, je trouve, c'est que de la frime. Juste pour montrer, moi, je me suis battu avec ce quartier, moi, je me suis battu avec ceci, j'ai défoncé celui-là, j'ai gagné contre lui, juste pour avoir, comment dire déjà, un statut.
Et est-ce que vous avez trouvé ça difficile de pouvoir faire ce reportage alors qu'on était en plein confinement?
Moi, ce que j'ai trouvé frustrant, c'est de faire des témoignages, d'interviewer des gens pendant beaucoup de temps et de regrouper ça que pour 3 minutes.
Vous avez passé des heures, hein? C'est
tout
plus
ça
d'une heure d'interview à chaque fois.
Pour que les gens écoutent ça 3 minutes. C'est chaud quand même, hein?
Rappelle-toi à l'époque, pas un rond dans les poches. On attendait pas Halloween par le Tokyo Port. Pas toujours été ça, je voulais ressembler au grand chez moi. Maman m'appelait, je répondais pas quand elle me laissait des messages. On a marché à plusieurs, on faisait le tour de Paname. Pour un regard, on se tapait, génération de malades. Dans ma classe, j'étais le clown. Aujourd'hui, ma prof de maths compte sur moi, je dois faire attention, ces gamins, c'est un truc de ouf. Bah, et ma vie a changé, plus de retard de loyer. Maintenant, je me fais plaisir, je peux porter du Dieu épais. Sur mes poches, je me suis pas trompé. On était jeunes et turbulents, on avait les mêmes heures de colle dans le carnet. J'ai jamais fui au combat, parfois. fois à 4 contre moi. Mentalité d'un tingari, je te rappelle pas des bobards. Qu'on a créé c'est dansant, BKR c'est dansant. J'oublie pas mes racines, c'est pour ça que les rêves est dansant. Le soir je pense au futur, mais le passé si en vite. On se demande quand je vais couler, on m'a pris pour Titanic. Jamais été un avare, mon cœur est grand ouvert. Demande à mes gars, y'a même des padards qui mangent à ma table. Des vrais soldats et leur reste, et de trop finis poussière. Même si ton argent se finit pas, un jour tout se paie. Mon cœur est entouré de barbelés, l'amour m'a pas écouté. J'ai une demoiselle, connaît pas moi, mais elle veut MHD. La vie est triste, bah ouais, Cupid on séparé. En deux semaines, elle veut une bague et pouvoir t'appeler pareil. Maintenant c'est plus pareil, les temps ont changé. Hey. J'ai perdu mon souffle, j'ai pas fini la course. J'ai connu la misère, j'ai pas crié au secours. Un œil sur le compte à rebours. Mais quand ça va finir, si la vie m'emporte, aucun regret, j'y ai pris plaisir. La rue m'a volé jeunesse, un métier trop sincère. J'peux pas lui en vouloir, elle a fait de moi un guerrier fidèle. Fidèle à mes principes, fidèle à la famille. J'ai pas changé ma vie par quelques vues ou quelques groupies. Que Dieu me pardonne, ma passion m'a fait dévier. On passe notre temps à pêcher, on a fini par s'y noyer. Et les vrais, moi je les connais pas, besoin de faire un bouquin. J'viens dans ma dans la main, prends la Rolex sur mon poignet. Et celle qui m'aime aujourd'hui. M'aimait-elle hier, va-t-elle m'aimer demain quand je serai plus dans le classement iTunes? Pas besoin de réconfort, pas besoin de nouveaux amis. Le soir en balade sur Paname, j'ai pas besoin de ma sécu. On a perdu Harry, plus repose en paix. La vie de ma mère, que les mecs d'en bas ne seront plus jamais en paix. Plus de contrôle par l'agent, que par mes profs. J'ai la pression d'être attaché dans ce foutu décor. Des rats, juste des foules sur le pare-brise du Gamos. Et lendemain, ça me check normal sans mon rapport. Fuck les tous, je te dis fuck les tous. J'ai besoin d'une mélodie pour leur montrer que je suis vous. MH. Quel est kef, 6 heures sur la pendule. Un coup de billet, je me fais une répute. La voisine d'en France m'a vu quand j'ai vendu. Pour être qu'une définition, c'est une grosse. Je me rappelle d'une enfance tendue. La vie est passée vite, elle m'a regardé, elle m'a pas attendu. Je me rappelle quand j'étais moi. Je me rappelle des fins du mois et des frères qu'on a perdus. Toc toc toc, elle est kef, 6 heures sur la pendule. Un coup de billet, je me fais une répute. La voisine d'en France m'a vu quand j'ai vendu. Pour être qu'une définition, c'est une grosse. Je me rappelle d'une enfance tendue. La vie est passée vite, elle m'a regardé, elle m'a pas attendu. Je me rappelle quand j'étais moi. Je me rappelle des fins du mois et des frères qu'on a perdus.
France Inter, Interclasse.
Je n'ai que 15 ans et pourtant j'en ai déjà marre des gens qui rejettent les autres à cause de leurs différences. Par exemple, l'autre jour, je me balade avec mon amie dans le 19e arrondissement de Paris. Mon amie, elle est bisexuelle et elle est venue avec sa go. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une go, pour nous, les jeunes, ça veut dire son amoureuse. Elles se tiennent la main et franchement, on kiffe notre sortie. Et puis là, d'un seul coup, on entend.
Ah, vous avez pas honte, bande de lesbiennes? Vous me dégoûtez, vous êtes dégueulasse.
Ça, c'est un garçon de mon âge, agressif, qui vient vers nous et qui sépare mes deux amis. Pourquoi? Pourquoi, alors qu'on est si jeune, on peut réagir aussi mal à cette belle chose qu'est l'amour et qui ne regarde que les personnes qui ont ce sentiment? Pourquoi la différence rend les gens aussi sauvages et méchants?
Et Besma, si tu as écrit cette chronique, c'est aussi en réaction à l'actualité du mois de mai dernier.
Exact. À ce moment, je me balade sur Insta et je tombe sur la vidéo d'un noir américain qui étouffe sous le genou d'un policier qui le maintient à terre. Sur le coup, je comprends pas. Et puis je regarde les commentaires. Je clique sur les hashtags. Hashtag il faut que ça s'arrête, hashtag laissez-le tranquille, et surtout le hashtag Black Lives Matter. La vie des noirs compte. Utilisé par des millions d'Instagrammeurs dans les jours qui suivent. Je comprends ce qui se passe. Cet homme s'appelle George Floyd et il est mort à cause de la violence policière. À ce moment-là, je pleure. Je suis sous le choc. J'avais bien sûr déjà entendu parler des violences policières aux États-Unis, mais j'ai jamais vu quelqu'un mourir devant la caméra d'un téléphone en pleine rue. Donc, l'un est blanc, l'autre est noir, et l'un se permet de tuer l'autre pour une histoire de couleur de peau. Moi, Besma, 15 ans, Et mes amis homosexuels, noirs et arabes, ne comprenons toujours pas pourquoi on peut mourir juste parce qu'aux yeux de quelqu'un, nous sommes différents.
Salut, je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans. Je faisais la fierté de mes parents, jusqu'au jour où je leur ai dit. Où je leur ai dit cette toute petite chose qui a changé leur regard sur moi. Où je leur ai dit que j'étais heureux. Heureux d'être amoureux. Amoureux d'un garçon. Aimez vos enfants pour ce qu'ils sont. Pas pour ce que vous voulez qu'ils soient.
Moi, c'est Verlaine et j'ai 14 ans.
Maïmouna, 14 ans.
Besma, 14 ans.
Issan, 14 ans.
Vuk, 14 ans.
Amadi, 15 ans.
Alors au début, en fait, on voulait faire un reportage sur les féminicides.
Parler des féminicides, c'était parler des violences conjugales. Et du coup, vous vous êtes demandé, en fait, comment éviter que les violences conjugales deviennent, finissent en féminicide.
En 2019, il y a eu 149 féminicides en France. Nous avons voulu comprendre comment aider les femmes victimes de violences à s'en sortir. Nous nous sommes rendus au foyer Luz-Labbé, qui se situe dans le 20e arrondissement de Paris.
Le foyer a pour mission de loger les femmes victimes de violences conjugales dans des appartements dont les adresses sont gardées secrètes. Nous avons rencontré Roxane Blanchard, qui travaille au foyer Louise Labbé depuis 15 ans comme éducatrice spécialisée.
La première des choses, c'est la mise à l'abri des personnes victimes. Pour une partie des personnes, il y a vraiment besoin de se cacher pendant un certain temps. Le temps qu'il y ait des démarches juridiques et des décisions qui soient prises. Donc le pénal si les personnes ont porté plainte, le civil si les personnes veulent divorcer.
Le foyer Louise Labbé ne s'occupe pas seulement de loger les femmes victimes de violences conjugales, il leur apporte aussi un soutien psychologique et juridique.
Très souvent, nous encourageons les femmes à aller déposer plainte. Elles ne l'ont pas fait quand elles étaient avec leur conjoint. Et quand elles arrivent, à ce moment-là, c'est une éducatrice qui se rend au commissariat avec elles. En général, autant les enfants que madame vont un petit peu minimiser les faits. Parce qu'il y a ce lien familial qui va être un frein considérable, qui va être même un handicap. Et que le but de madame n'est pas de faire du mal à monsieur en allant déposer plainte. Le but est seulement qu'il la laisse tranquille hein, à l'avenir. Pour certaines, elles veulent que justice leur soit rendue. C'est tout à fait normal. Mais c'est peut-être pas la demande première, en fait.
L'avocate, Anne-Marie Lepape, vient deux fois par mois à l'association. Elle accompagne les femmes dans leur procédure pour divorcer, obtenir une mesure d'éloignement ou même simplement pour aller porter plainte.
Le foyer Louise Labbé propose un accompagnement juridique aux femmes victimes de violences, mais aussi des moments de bien-être pour se reconstruire. Des massages, des visites de musées. En 2009, la poétesse Maram Al-Masri est venue parler de poésie au foyer. Franco-syrienne, elle a été victime de violences conjugales par le passé. Elle a écrit un recueil de poésie, Les âmes aux pieds nus, à partir de ses rencontres avec les femmes du foyer.
On a bu du café ensemble, on a eu des thés ensemble, on a partagé des repas. Et puis, petit à petit, ces femmes sont ouvertes leur corps, elles ont ouvert leur corps pour moi et j'ai fait ce livre, voilà, Les âmes aux pieds nus. Je les ai vues toutes passer dans la rue, âmes aux pieds nus, regardant derrière elles, inquiètes d'être suivies par les pieds de la tempête. Voleuse de lune, elle traverse, déguisée en femme normale. Personne ne peut le connaître, sauf celle qui leur ressemble.
Israël Micharek a 41 ans. Victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles de la part de son ex-mari, elle a vécu plusieurs mois dans un appartement du foyer Louise Labbé. Elle a développé un lien très fort avec Roxane, son éducatrice, qui l'a aidée à se reconstruire. Grâce au foyer Louise Labbé, elle a aujourd'hui retrouvé son indépendance.
C'est des femmes qui ont beaucoup de... C'est des professionnels déjà. Et on m'a cru, tout simplement. On m'a cru, on m'a poussé. Il y a des moments où je vais lâcher, je veux plus rien. Et là, on me pousse, tiens, tu peux. Et effectivement, j'ai pu. J'ai fait ma formation d'aide-soignante. Aujourd'hui, je suis à l'hôpital, je travaille, je suis bien. Et plus tard, je vais faire infirmière. J'ai eu mon appartement aussi, hein, j'ai travaillé. Et là, je suis fière de moi, oui. J'avance. Et c'est toujours grâce au foyer, grâce à Roxane aussi. Hein. Si elle était là, elle va me dire oui, mais grâce à vous aussi, madame. Mais non. Roxane, pour moi, c'est ma... Je sais pas, c'est ma déesse, si je ne veux plus dire.
Parmi chacun d'entre vous, il y en a aussi qui avaient personnellement envie de s'intéresser, de parler des violences conjugales. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Oui, moi, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Quand une femme et un homme ils se mettent ensemble, enfin, la force de l'homme, c'est pas pour frapper la femme, c'est pour défendre sa femme. Donc je comprenais pas pourquoi.
Moi, ça me tenait à cœur parce que dans ma famille, il y en a ma tante éloignée, elle a vécu ça. Et ça m'a touchée et je voulais en savoir plus.
Moi, ça m'a tenu à cœur parce qu'il y a une de mes voisines que j'aime beaucoup. Elle subissait des violences conjugales. Je voulais savoir en fait comment on pouvait stopper ça. Voilà.
Moi, je me posais toujours la question pourquoi les femmes, quand elles étaient victimes, elles partaient pas. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit par exemple, comme elles étaient indépendantes à l'homme, ça veut dire si elles partaient, financièrement, elles auraient rien. Elles vivront à la rue et si elles ont des enfants, ça va être encore plus difficile.
Quand on a parlé à la femme qui a été victime de violences conjugales, en fait, ce qui m'a touchée le plus, c'est quand elle a commencé à parler de l'importance d'être indépendante, de pas dépendre de quelqu'un.
Le témoignage de Israël Charek, il était vraiment violent dans ce qu'elle avait vécu. Et donc, je pense que vous étiez tous un peu, et nous aussi, choqués de... C'était assez dur.
Je crois que le moment le plus choquant, c'est quand elle a dit que son mari l'avait laissé mourir de faim pendant 10 jours. Ah oui, il l'a violée aussi.
Qu'est-ce que vous, de ce témoignage de Israël Charek, qui était très fort, qu'est-ce que vous gardez de positif ?
En fait, elle a dit quand elle est arrivée au foyer, elle avait confiance en personne. Mais quand elle est arrivée là-bas, genre, elle leur a expliqué. Et ce qui l'a touchée, c'est qu'ils l'ont cru. Sans vous montrer qu'elle monte ses blessures, ils l'ont cru et ils l'ont aidé à avancer. Et ce que c'est bien aujourd'hui, c'est que elle a quand même des séquelles, mais elle arrive à avancer. Alors qu'il y a des femmes, ils n'arrivent pas à avancer.
Ce que j'ai retenu, c'est que faut pas se mettre avec n'importe qui. Et au premier coup, faut directement partir.
Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, quand elle a commencé à parler de sa famille qui l'a rejetée et qu'elle a commencé à me regarder. Et en fait, tu vois, je sais pas si j'ai bien compris son message, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est qu'en fait, une famille, elle peut se montrer cruelle quand même, mais elle a pas que des bons côtés. Parfois, faudrait juste s'en détacher quand elle devient trop toxique.
Moi, je comprends pas quand ils disent « je l'ai tuée parce que je l'aime ». Quand on aime une personne, on la frappe pas, je sais pas, on prend soin d'elle comme une princesse. Je comprends pas.
2, 3, pour protéger vos filles, éduquer vos fils. Voilà.
France Inter, Interclasse.
Ce reste juste dans ma tête, ou toi aussi, c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi, je sais c'est bête. J'y ai pensé en boucle, je te veux. Je me le cachais sans doute, je te veux. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes. Je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir. Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais. Je vais te le cacher sans doute, tu me plais. Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes.
J'ai peur d'être à deux. J'ai peur de te regarder et encore plus dans les yeux. Et cela je les évite, ce regard qui m'invite. Même si au fond de moi j'hésite, je brûle d'envie que tu me regardes.
À la 60e minute, Moussa Maréga inscrit un but décisif. Des chaises sont jetées sur le
Paul
terrain.
Pogba cible d'insultes à caractère raciste. L'élément
nouveau cas de racisme dans le football. Hier, des cris de singes ont retenti dans un stade.
Durant les 10 minutes qui suivent, le joueur de nationalité malienne est alors la cible d'insultes racistes venues des tribunes.
Nous sommes toujours au centre Angèle Mercier, dans le 19e arrondissement de Paris, avec une partie donc de la classe 3e 4 du collège Georges Rouault. Là, on est avec Jonas, Aïda, Binet et Tiffany. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Alors avec vous, on a décidé de travailler sur le racisme dans le football.
Nous devions de ne pas rester muets et sourds par rapport à tout ce qui se passe, mais d'agir et de montrer que nous ne sommes pas pour le racisme, mais pour l'égalité. D'abord, dans le football, il y avait l'exemple de Moussa Maréga, qui s'est fait insulter par des cris de singe de l'équipe adverse pendant un match en Liga portugaise. Il y a encore des actes qui se produisent alors que nous sommes au XXIe siècle et ça devrait être inadmissible que cela se produise. Et pourtant, ça se produit. Donc, nous devons faire en sorte que tout cela bien se stoppe.
On écoute le reportage qu'on a fait.
Cris de singe, jet de banane, insultes. Les actes racistes dans le football restent très présents. Il y a un an, le capitaine du club d'Amiens, Prince Guano, se faisait insulter en plein match par un supporter.
77e minute, le capitaine d'Amiens, Prince Guano, arrête de jouer et sort du terrain. Il vient d'être victime de cris de singe.
En février dernier, l'attaquant franco-malien de Porto, Moussa Maréga, quitte le terrain après des cris racistes. L'ancien international français, Rio Mavuba, lui aussi a connu le racisme. Il témoigne.
Le dernier souvenir que j'ai et que j'ai vécu, ça a été pendant mon expérience en République tchèque, à la fin des matchs, ils avaient une coutume. Ils allaient pénamènent les supporters. Et donc je tapais les mains des supporters et parfois j'ai eu 5 mains qui se sont retirées, tu vois. Je comprends pas. En plus, ils parlent dans leur langue et moi je parlais pas tchèque, je comprenais rien. Mais tu sentais quand même qu'il y avait de l'agressivité. Et puis à la fin du truc, j'attends les autres joueurs étrangers et tout. Et je leur dis, ouais, vous avez vu aussi des mecs qui sont retirés. Et puis il y en a plein qui m'ont dit, ouais, moi, on a vraiment été dégoûtés, qu'on était choqués. T'as un sentiment de révolte qui vient en toi, mais il faut se contenir.
Selon Rio Mavuba, face à cela, les clubs ferment les yeux.
Ces gens-là sont facilement identifiables. Et les clubs sont au courant, je pense même de ceux qui ont ces pensées-là. Sauf que les clubs essaient de se protéger, je pense qu'ils ont aussi la crainte de leurs supporters, ce qui est dommage. Les présidents et les directeurs, en tout cas de la sécurité, savent très bien ce qui se passe dans certains clubs, sauf qu'ils signalent pas parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer en conflit avec leurs propres supporters. Et ça c'est terrible.
Y a-t-il une prise de conscience? Nous avons interrogé le journaliste Dominique Courdier, directeur de l'information de News Tank Football.
Aujourd'hui, il y a des protocoles, il y a un quatrième arbitre, c'est-à-dire quelqu'un qui est au bord du terrain, pour écouter ce qui peut se dire dans les tribunes. La première fois, on avertit. Enfin, il est demandé à la Sono de passer un message disant qu'il faut absolument arrêter ces chants, ces cris discriminatoires ou racistes, sous peine d'arrêt de la rencontre, premièrement. Le match reprend. S'il y a un deuxième cas, à ce moment-là, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Et au troisième cas, s'il y a un troisième cas, à ce moment-là, le match est arrêté définitivement. Et le stade est évacué. Et à ce moment-là, ben, c'est aux commissions de discipline de juger la responsabilité du club qui accueille la rencontre. Est-ce que le match est rejoué ou pas, ou est-ce que le match est donné perdu à l'équipe qui recevait, tout ça, ça dépend des commissions de discipline.
Face aux préjugés de certains de leurs joueurs, des clubs ont décidé d'agir. C'est le cas de Wolfgang Nathlassen, président d'une équipe de Milan. Il a emmené ses joueurs disputer un match à Soweto en Afrique du Sud, une ville symbole de la lutte contre l'apartheid, pour tenter de changer leur point de vue.
Le match, on l'a perdu, etc. Très bien, bon, ben voilà. On s'en foutait complètement de gagner ou pas. Mais les deux équipes se sont retrouvées dans le bus. Tous les liens se sont vraiment, réellement tissés, quand je vous disais avant que tout le monde chantait, dans le bus. Et là, tout le monde était en larmes. J'ai vu un de mes joueurs, c'est un ultra de l'Inter. Voilà, ça, c'est pour les présentations. Lui, il a totalement changé. Voilà, j'ai un autre joueur qui est un peu particulier, qui est un peu dur, qui était en larmes, qui est magnifique, qui maintenant, à chaque fois que je vois un truc sur Instagram, dans ses stories ou dans ses posts, c'est des trucs super engagés. C'est inouï. Hein.
Comme les joueurs de Wolfgang Nathlassen, tout le monde peut changer. Les victimes de racisme elles-mêmes ne se taisent plus et font bouger les choses dans le football et dans l'ensemble de la société.
Alors voilà, on vient d'écouter votre reportage sur le racisme dans le football. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Nous pouvons tous faire quelque chose, et y compris les présidents des ligues de football. Ils ont tous quelque chose à jouer dans cette histoire. Ils peuvent tous intervenir contre ceux qui ont produit ces actes racistes. Et ils doivent le faire. Et on ne devrait pas se dire, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, c'est la fin. Non, on devrait toujours continuer à se dire qu'on peut changer les choses.
Qu'est-ce que vous avez pensé de votre rôle d'intervieweur ?
C'est pas facile d'interviewer quelqu'un, mais c'est pas facile aussi d'être interviewé. Hein.
Le problème, c'est que des fois, les personnes qu'on interviewe, elles répondent aux questions avant même... qu'on me pose la question.
Ça m'a pas plutôt marqué, mais ça m'a stressé. Le fait d'interviewer des personnes connues, bah, ça m'a mis un peu le stress à la gorge. C'était chaud, et surtout, il y a des fois où il fallait rebondir, mais je savais pas trop quelle phrase formuler ou quoi dire. Il fallait rester solide.
Bonjour, je m'appelle Maïmouna Konaté, j'ai 14 ans, j'habite dans le 19e arrondissement à Paris. Cette année, j'ai fait un reportage avec France Inter et je vais vous expliquer comment on fait. Étape 1, le sujet. Moi, mon sujet, c'était les violences conjugales. Ensuite, il faut choisir l'angle. Un angle, c'est quoi ? C'est moins large qu'un sujet et c'est pour être plus précis. Par exemple, moi, mon angle, c'était comment réduire les violences conjugales. Finalement, c'est une question à laquelle notre reportage répond. Étape 2, il faut trouver des personnes intéressantes à interviewer. Étape 3, une fois que les personnes ont dit oui, il faut préparer les questions. Étape 4, l'interview. Pour faire une interview, il faut se présenter, demander à la personne de se présenter. Moi, mon interview, elle était très émouvante, alors j'ai interviewé Maram El Masri, qui est une poétesse écrivaine qui a été victime de violences conjugales. Et à la fin, on était tellement émus qu'on s'est pris dans nos bras. Étape 5, le montage. Il faut sélectionner les parties les plus importantes et supprimer les moins importantes. Ensuite, il faut décider d'un ordre pour ces parties essentielles. Étape 6, l'enregistrement du commentaire. Le commentaire, c'est raconter une histoire et introduire les sons qu'on a choisis pendant le montage. Bah alors là, c'est presque fini. Une fois qu'on a le commentaire et les interviews qu'on a fait, on mixe tout cela et le reportage est fait. J'espère que j'ai été claire et que cela vous aidera à faire de prochains reportages. Sourire.
Ha. Ome, 本当 にそんな顔で撮るのか？
いいからいいから。はい。
たく、後悔するなよ。はい、チーズ。
Il y a avec moi Matumita, Maroline, Mélanie, Jean-Raymond, Nicolas et Gwendal. Et ils ont tous participé à la réalisation d'un reportage sur le manga en France à l'heure du confinement. Par exemple, Maroline, tu peux nous expliquer comment est-ce que vous avez choisi le sujet et comment est-ce que vous l'avez réalisé.
Bonjour. On a choisi les mangas puisque presque tout le monde aimait et que même ceux qui connaissaient pas, ils voulaient connaître un peu plus les mangas.
Je vous propose donc d'écouter tout de suite ce reportage sur les mangas au temps du confinement, réalisé donc par 6 collégiens du collège Georges Rouault du 19e arrondissement de Paris.
La crise du Covid-19 a fortement impacté l'économie du manga, en commençant par la fermeture des librairies et des imprimeries. Mais pour les éditeurs, comme Christelle Hollands, directrice des éditions Kana, le confinement n'a pas été de tout repos.
Ça a été énormément de travail, bizarrement, alors qu'on se dit, la chaîne freine, donc on va être plus cool. Et en fait, non, parce qu'il a fallu réorganiser tout ça, tout en rassurant tous les auteurs, les éditeurs chez qui on achète les licences, en leur disant qu'il ne fallait pas paniquer.
La crise sanitaire a également décalé l'apparition des nouveaux mangas.
Depuis mi-mars, jusqu'à mi-mai, il y a 35 tomes qui étaient prévus qui ne sont pas parus. Moriarty, par exemple, qui était prévu en avril. On a repoussé ces parutions qui étaient prévues à ce moment-là sur mai, juin et juillet. Et puis, on a repoussé tous les autres tomes sur la fin de l'année et puis 2021.
Ce changement d'agenda est bénéfique pour les libraires, comme Michael Brun-Arnaud, gérant du Renard Doré à Paris.
Il y a des éditeurs qui effectivement qui ont retravaillé leur catalogue pour essayer de redispatcher parce qu'effectivement là on a beaucoup de sorties malgré ce retravail.
Les auteurs, eux, n'ont pas trop été impactés par la fermeture de librairies. Pour Elsa Brunt, autrice et mangaka, c'est surtout l'annulation des rencontres avec ses lecteurs qui l'a touchée.
Normalement, je partais en dédicace 1 à 2 week-ends par mois. Tout a été annulé et mis entre parenthèses jusqu'à au moins l'année prochaine.
Pour les auteurs, ces rendez-vous sont importants. Ils permettent d'échanger avec les lecteurs.
Si on ne sort pas pour dédicacer nos livres, on ne voit personne, on ne se rend pas compte de comment nos albums ont été reçus par les lecteurs. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Je reviens de ces séances boostées à bloc pour recommencer à travailler avec beaucoup d'énergie.
Au Renard Doré, Michael Brun-Arnaud organise de nombreuses rencontres et animations toute l'année. Pour garder contact avec sa communauté, pendant le confinement, il a utilisé les réseaux sociaux.
On a fait des lives au moins 3 fois par semaine. On a organisé des quiz en collaboration avec des éditeurs, des blind tests en collaboration avec des artistes qui ont joué de la musique. Ça a été pour nous une bulle d'oxygène et en fait, le fait que ça l'ait été pour nous, ça l'a été aussi pour notre communauté. Et ça nous a permis aussi de renouer avec une communauté en ligne qu'on a, des gens qui sont pas à Paris, mais qui suivent le Renard Doré et qui ont pu bénéficier d'animations du Renard Doré sans être à Paris.
Comme les animations, les mangas ont été dématérialisés pendant le confinement. Les éditeurs ont mis à disposition de leurs lecteurs des mangas en ligne.
Pendant le confinement, on a mis en ligne chaque jour des séries de notre catalogue gratuitement en ligne. On a constaté un gros intérêt pour le numérique puisqu'on a fait beaucoup de lectures numériques pendant ce confinement, qu'elles soient payantes ou gratuites. Les best-sellers qu'on a en physique sont les mêmes en numérique. Donc on a fait un gros carton par exemple avec Naruto, Hunter x Hunter, tous ces titres-là qui se retrouvent comme les meilleures ventes en numérique.
Ces ventes numériques ont eu un impact positif sur les ventes physiques des librairies, comme nous l'explique Michael Brun-Arnaud.
Là, pas plus tard que ce matin, il y a une cliente qui avait découvert un manga qui s'appelle Éclat d'âme, qui est un manga important parce qu'il parle de coming out. Et en fait, elle a lu le premier tome et elle a acheté les 4 ce matin, donc un effet plutôt bénéfique.
De plus en plus d'auteurs adaptent leur travail au format numérique, comme Elsa Brandt.
Ma prochaine série, je suis en train de la dessiner et de la mettre en page de manière à ce qu'elle puisse être lue sur les 2 formats. J'ai eu cette envie, en fait, il y a à peu près 1 an. Donc, est-ce que j'ai eu d'une idée? Je ne sais pas. On verra si ça prendra au format numérique ou pas. Sinon, de toute façon, ma série sera également disponible au format papier.
Durant le confinement, le numérique a sauvé éditeurs, libraires et lecteurs. Mais le format papier n'est pas prêt de disparaître. D'après Michael Brun-Arnaud et Christelle Hollands, les ventes repartent à la hausse. Et les lecteurs sont toujours au rendez-vous dans le 2e pays plus gros consommateur de manga après le Japon.
Je
pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où j'ai mal. Et tes copines veulent tout gâcher, à chercher mes erreurs. Et si elles arrivent à trouver, y'aura des cris, des pleurs. Je dois faire de toi ma femme, j'en ai vu défiler des centaines. Moi je suis un loup du bac, à mes côtés il me faut une panthère qui ressemble à ma mère. À la vie, à la muerte. On s'oubliera peut-être par fierté. La reine du royaume c'est toi. Ma fille ça sera une princesse. Je voulais juste la paix, moi et ma belle là dans le classe S. Oh mi amor, c'est que nous deux, fuck le reste. C'est toi la best, la classe à faire. Si c'est trop la guerre, à toi mon bébé, à toi ma future femme. Y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille jusqu'au bout, je sais que t'as kiffé. Je le vois dans ton sourire. Je te ferai plus jamais souffrir. Et tes copines disent que c'est mort, un avenir avec un nid. Mais c'est peut-être William qui veut construire une famille. Une putain de vie d'artiste, une putain de vie de OG. Je sais qu'elle m'aime à la folie. Hey, hey. Je sais qu'elle est jalouse, je dois me barrer en showcase. Je dis je dois faire de la maille. Elle me dit fais attention quand même, car si tu tombes, je tombe aussi. Ne viens pas gâcher nos projets, j'ai pas que ça à faire de ma vie. Y compris. Y'a que nous deux dans le bolide. On se balade depuis tout à l'heure. J'ai les clés des portes de Paris. Yeah. Baby maman, de quoi t'as peur? J'ai son cœur dans la poche. Mais à quel bruit les pistes? Elle veut que je fasse des efforts. Elle prendra la tête toute ma vie. La reine du royaume, c'est toi. Ma fille, ça sera une princesse. Je voulais juste la paix. Moi et ma belle là dans le classé.
Cette interprète touche à sa fin. On a quitté les élèves, mais on est toujours avec les enseignants, les deux enseignantes qui ont encadré ce projet toute cette année, Elena Pavel, la prof principale de la 3e 4, et Laurence Grammard. Qu'est-ce que vous retenez de cette saison ?
C'est vrai que c'est une année assez inédite, avec cette période de confinement qui est venue un peu bouleverser tout le calendrier des reportages. On a vu de la pugnacité, de l'envie pour continuer à maintenir le projet et à réussir à mener des interviews à distance qui n'étaient pas gagnées à la base. Et ce qui a permis aujourd'hui de démontrer que les élèves étaient assez motivés pour revenir, quasi tous. Hein, il manquait qu'une seule élève à l'appel.
On revient de loin quand même, non ? Elena Pavel, c'est vrai que vous êtes expérimentée, c'est pas la première saison d'interclasse que vous faites. Qu'est-ce qui était différent cette année ?
Tout, en fait. Et on a vraiment cru à un moment que le projet serait à l'arrêt. Et en fait, du côté de France Inter, vous avez dégagé une telle énergie que c'était difficile, en fait, d'arrêter ce projet. Et on s'est retrouvé quand même à faire 2 à 3 rendez-vous virtuels avec chaque journaliste, chaque semaine, quand même, caler les interviews, préparer les questions. Alors, on n'a pas eu l'aspect technique habituel avec on va sur le terrain, on fait de la prise de son, etc. En revanche, ils ont découvert quand même des journalistes très pugnaces, très motivés, et ils ont fait un gros travail d'écriture assez formateur pour eux, je pense. C'est le seul projet cette année qu'ils auront réussi à mener jusqu'au bout, en fait. Leur œuvre finale cette année, c'est le projet Interclasse.
D'avoir fait ce projet Interclasse avec ce confinement, vous qui avez l'habitude d'autres Interclasses, est-ce que ça vous a appris des choses particulières sur vos élèves, sur la relation d'un enseignant à l'élève ?
Je pense que le confinement nous a fait entrer dans l'intimité des élèves. Et sans le projet Interclasse, on ne les aurait pas vus autant pendant le confinement. Et là, on a eu tellement de rendez-vous avec eux. Moi, c'était la première fois que j'envoyais des SMS à des parents avec mon téléphone personnel pour leur dire « Attention, votre fils, votre fille n'est pas là. » C'est-à-dire que tous les parents de la classe ont mon numéro de téléphone. Ça m'était quand même jamais arrivé. Donc, on est vraiment entrés dans leur logement.
Et peut-être toucher un peu plus à un travail avec eux individuel, quoi. Il a fallu aller un par un les rechercher, courir après, si je puis dire, les remotiver, pour éviter le décrochage à l'échelle de la classe, mais aussi du collège. Hein.
Et Interclasse a permis de garder ce lien qui aurait été plus difficile à maintenir sans un projet comme ça ?
On est une des classes qui a eu le moins de décrocheurs. Je ne sais pas si c'est lié à Interclasse. Et aujourd'hui, on est le 29 juin et il manque une élève pour l'enregistrement de l'émission. Le 29 juin, on est dans un quartier populaire. Ils sont une classe de 3e. Ils ont fini l'année. Ils sont là aujourd'hui.
Je pense que ça les a rassurés dans un premier temps, qu'on maintienne une certaine normalité dans ce qui était prévu au niveau du projet. Parce que je pense que certains s'inquiétaient quand ils n'ont pas eu de nouvelles pendant un bon moment. Puis finalement, quand on leur a annoncé que le projet se relançait et que les interviews étaient finalement possibles à distance, ça les a rassurés. Et par exemple, avec ton sujet, Claude, on voyait clairement que le choix du sujet qui avait été réfléchi au départ, peut-être par une certaine fascination qu'ils ont parfois pour les comportements violents, ce genre de choses, un sujet qui était complètement tabou, d'expériences vraiment individuelles, ils ont progressivement tirer le fil vers l'universel et je pense que c'est ce recul au niveau de l'adolescence de se dire je m'intéresse à un sujet avec ma candeur, peut-être parfois quelque chose de simpliste et d'arriver progressivement vers la complexité de tout ce qu'on découvre derrière un sujet aussi fort que des violences envers les parents. Je pense que ça arrive à ce moment charnière de l'adolescence qui va peut-être les faire grandir un peu plus vite. Enfin, c'est mon ressenti par rapport à ça, mais...
Donc on rempile.
Ah bah nous, on vous attend à Roux, vous avez intérêt à venir, hein, tous. Hein.
Déconfinés
avec un masque, comme vous voulez.
Moi, avant Interclass, je pense que les journalistes étaient des menteurs, qu'ils exagéraient trop dans les choses. Mais maintenant, j'ai vu que c'est pas tous les journalistes. Hein. Je pensais, moi, que dans une entreprise, c'était pas les journalistes qui cherchaient les questions, c'était leur patron qui leur donnait. Alors qu'en vrai, vous devez faire des recherches sur les questions, des recherches sur la personne, des questions justes et bien. Mais j'ai bien aimé. On a fait des recherches sur Maram El Masri. On a regardé les poèmes qu'elle faisait. On en a lu quelques-uns. Et ça m'a beaucoup plu.
Ouais, il faut toujours qu'ils aient un avis neutre. Il faut pas qu'ils... C'est trop compliqué. Moi, je peux pas rester neutre dans ce genre de situation. C'est trop... En plus, quand tu parles de sujets comme ça, t'es obligé de donner ton avis. C'est trop compliqué de se taire et juste d'écouter. En fait, t'as une de ces envies de soutenir la personne, c'est trop compliqué. Je sais pas comment ils font.
Grâce à France Inter, moi, j'aimais pas la radio, j'aimais pas les infos. Et plus on a travaillé dessus, ça m'a intéressée. Maintenant, grâce à vous, je regarde un peu plus pas beaucoup la radio, hein, mais un peu plus les infos. Et peut-être, si par exemple, j'ai plus envie de faire mon métier, peut-être je serai journaliste, mais j'ai dit peut-être.
Hein. Ah, moi aussi, j'en ai
peut-être. Hein. Mais sinon, ça m'a beaucoup plu. Et de base, j'appréhendais parce que comme j'aimais pas trop le journalisme, mais ça m'a beaucoup plu. Et je conseille tout le monde d'aller à France Inter.
Ainsi s'achève la 5e saison d'Interclass avec son florilège d'expressions à la mode. En top 3 cet été, moi à mon avis personnellement. Top 2, de base, ex aequo avec En mode. Et top 1, l'indétrônable du coup. Du coup, je vous propose de base, en mode podcast, la réécoute des 8 épisodes d'Interclass que, moi à mon avis personnellement, je trouve pas mal, sur franceinter.fr. Interclass revient à l'antenne l'été prochain, mais le projet s'accompagne toute l'année sur une nouvelle plateforme, interclasslesite.fr, les ateliers en temps réel, les tutoriels pour les enseignants intéressés par la méthode Interclass à reproduire et les partages d'expériences. Interclasslesite, toutattaché.fr. Bonne fin de vacances, n'oubliez pas la rentrée sur France Inter, c'est demain matin à 5h.
Il leur apporte aussi un soutien... J'ai bugué. Il leur apporte aussi un... J'ai encore bugué.